J'aimerais qu'on lise, et je continue sur ce sujet hein, qui nous intéresse pour cette période de l'été. Donc toujours pareil, le combat spirituel, je m'étais arrêté au mois de février dernier, j'en ai parlé dimanche dernier. Pour ceux qui n'étaient pas là, je ne vais pas faire un rappel, vous avez le site, ça rend bien service. Vous allez sur le site addegreux.fr et vous retrouverez donc le message de dimanche dernier. Nous allons quand même lire le texte qui fait référence, Éphésiens chapitre 6, verset 10. Gloire à Dieu. Éphésiens chapitre 6, verset 10. Éphésiens 6, verset 10. Voici ce que dit l'apôtre Paul. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Nous l'avons déjà vu. Revêtez-vous de la cuirasse de la justice. C'était le message de dimanche dernier. Et ce matin, verset 15, nous allons voir cette troisième arme spirituelle. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Amen. Donc voyons cette autre arme, troisième arme spirituelle. Alors, revenez, je vous le dis encore, je le répète, sur le site pour écouter le message de dimanche dernier parce que j'ai fait un rappel, en même temps que de voir la cuirasse de la justice, j'ai fait un rappel de l'importance du combat spirituel et comment voir cette particularité importante spirituelle du combat spirituel. Car nous sommes engagés dans un combat spirituel. Nous ne luttons pas contre la chair et le sang, dit Paul, c'est-à-dire contre les hommes. Parce que les hommes, quand ils luttent entre eux, ils prennent pas des armes spirituelles. Ils prennent des armes charnelles, hein, des armes sur le plan matériel. Mais nous, nous ne sommes pas engagés dans un combat comme celui-ci. Nous ne sommes pas des terroristes, nous ne sommes pas des mystiques. Nous sommes des gens équilibrés, nés de nouveau en Jésus-Christ. Et le combat que nous devons mener par rapport à la situation de la société d'aujourd'hui, des cœurs précisément, c'est un combat spirituel. Tout est spirituel dans le domaine de la marche avec Dieu. Amen. C'est pas charnel, c'est spirituel. Et donc l'apôtre Paul dit à cette église d'Éphèse, revêtez-vous de toutes ces armes. C'est-à-dire que c'est un effort que nous devons faire individuellement, personnellement. Ce n'est pas moi qui vais vous revêtir des armes spirituelles en tant que pasteur. Moi-même, je suis revêtu et j'ai fait cette démarche, heureusement, mais je vous encourage à le faire pour vous-même, en tant que chrétien, en tant que croyant, pour que vous puissiez être bien armé. Et contre qui ? Contre, eh bien, nous l'avons lu, eh bien, contre les dominations, on parle du spirituel, bien sûr, hein, contre les autorités spirituelles, contre les princes de ce monde de ténèbres. Donc, contre les esprits méchants dans les lieux célestes, c'est-à-dire le diable et toute son organisation. Nous avons donc besoin de la ceinture de la vérité, nous avons besoin du revêtement de la cuirasse de la justice de Dieu, mais nous avons besoin aussi d'être revêtus de, eh bien, ce zèle, imagé par les chaussures, parce qu'on est en marche, le zèle, on est en mouvement, gloire à Dieu. On parle dans nos églises évangéliques, protestantes, donc de Pentecôte, on parle du mouvement de l'esprit, mouvement. On est en marche, c'est pas statique, c'est pas figé. Un chrétien, une chrétienne naît de nouveau, donc c'est quelqu'un qui est en marche, c'est quelqu'un qui est en mouvement. D'ailleurs, dans Matthieu 5, quand il est question des béatitudes pour démarrer cet enseignement de Jésus qui rappelle les principes du royaume des cieux, Matthieu 5, 6, 7, eh bien, Matthieu 5, ça commence par les béatitudes. Et béatitude, le mot, ça veut dire heureux, mais plus précisément, littéralement, ça veut dire « je suis en marche ». Alléluia. Et la question que vous devez vous poser pour vous-même, mes frères et sœurs, mes bien-aimés, c'est de savoir si vous êtes dans un mouvement spirituel. Si vous n'êtes pas laissé arrêter, figé, bloqué, tétanisé par des paroles, des idées, des principes qui ne viennent pas de Dieu, mais qui viennent de la chair, ou qui viennent malheureusement parfois des œuvres des ténèbres. Car je vous rappelle, et ça c'est tout un autre message, que Jacques, dans son épître, va faire allusion à la sagesse, mais il va parler de trois sortes de sagesse. Vous les connaissez ? Il y a la sagesse terrestre, il y a bien sûr la sagesse de Dieu, mais il en parle d'une troisième, qui paraît surprenante, mais c'est une réalité, la Bible dit la vérité, Dieu parle selon la vérité, une sagesse diabolique. Relisez l'épître de Jacques. Et donc, nous devons veiller à ce que nous soyons revêtus de ce qui vient d'en haut, et non pas d'un état d'esprit humain, charnel, terre à terre, afin que ce qui vient de Dieu ne soit pas exclu, et que nous ne marchions plus selon la chair, mais que nous marchions selon l'esprit. Galates chapitre 5. Mes frères et sœurs, ayant chaussé à vos pieds, donc, les bonnes dispositions, je traduis le zèle, les bonnes dispositions, la promptitude, l'élan, la disposition intérieure, que donne, non pas qui que ce soit sur cette terre, mais que donne l'évangile de paix. Pour avoir nos pieds chaussés de la préparation de l'évangile de paix, qui va nous donner de l'élan, cette autre pièce de l'armure spirituelle que nous voyons, pour être chaussé de ces chaussures-là, du zèle, que donne l'évangile de paix, j'y reviens, c'est lié. Il faut d'abord cette bonne conscience que nous avons reçue en Jésus-Christ, qui représente, ou qui est représentée, pardon, par la cuirasse de la justice. Donc on en a parlé dimanche dernier. Alors, au milieu de la bataille, je ne sais comment vous vivez votre vie spirituelle, mais personnellement, il y a des combats dans ma vie. Des combats contre des tas de choses. Mais je combats pas humainement, charnellement, parce que je risquerais de faire des dégâts. Mais je vais combattre spirituellement. C'est sûr qu'en face, eh bien, il peut y avoir des réactions, des positions, toutes sortes d'idées, de principes. Mais peu importe, à partir du moment où je vais mener cette bataille avec cette cuirasse de la justice, la ceinture de la vérité, mais également donc chaussée de ces chaussures que donne le zèle de l'évangile de paix, alors à partir de ce moment-là, je vais jouir de la paix de Dieu. Êtes-vous en paix ? Êtes-vous en paix ? En paix avec vous-même, en paix avec Dieu, ça c'est important, c'est la première des choses. La paix avec les autres, parce que vous êtes en paix avec Dieu, donc normalement la paix se transmet. Et cette paix intérieure, qui se manifeste à l'extérieur, va se traduire d'abord par le fait que nous marchons sereinement, nous marchons dans la tranquillité, dans le repos, au milieu d'un monde qui est agité et inquiet. Et nous ne serons pas de ceux qui vont réagir comme les gens du monde. L'affolement, la peur, la crainte, et bien d'autres choses encore qui les amènent à être angoissés. Quelqu'un qui est né de Dieu, qui est revêtu de toutes ses armes spirituelles, dont celle-ci, le zèle, être fervent pour le Seigneur, parce qu'il est attaché vraiment au Seigneur, c'est un cœur à cœur avec Dieu. C'est pas seulement intellectuel, parce que je peux apprendre toute la Bible, là dans ma tête, mais je la vis pas. Je peux être un intellectuel évangélique, protestant, mais je ne vis pas la parole de Dieu. Ce qui relève à ce qu'on appelle aujourd'hui dans la théologie à un formalisme religieux, c'est-à-dire une religion de forme, une religion d'extérieur. Mais mes bien-aimés en Christ, ce n'est pas comme ça que vous allez tenir ferme contre les ruses du diable. Car je vous rappelle que votre ennemi, c'est pas votre voisin, c'est pas votre voisine, c'est pas votre frère et votre sœur, certainement pas, mais c'est le diable, Satan. Il est rusé, il est méthodique pour vous faire chuter, pour vous éloigner de sa maison, pour vous faire croire des choses qui ne tiennent pas la route, qui ne vont pas dans le bon sens. Le Seigneur nous invite à être zélés pour sa gloire. Et quand on est zélé pour sa gloire, ça veut dire qu'on est zélé pour le salut des âmes, pour l'édification de l'Église, pour que l'Église aille de l'avant. Il y a bien une chose qu'il ne faut jamais faire, c'est s'opposer à l'Église de Jésus-Christ. J'ai bien dit de Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, on est dans un monde agité, inquiet. Nous serons donc ainsi armés, chaussés, nous serons réellement prêts à apporter les bonnes nouvelles de la paix de Dieu, de cette paix qui surpasse toute intelligence, à ceux que Satan retient encore en esclavage, et ils sont nombreux, dans le lotissement, dans le lieu-dit, dans le hameau, dans le village, dans la ville où vous vivez, où vous avez votre maison, votre appartement, mes frères et sœurs, vous êtes entourés de gens qui sont encore sous l'esclavage du diable. Et notre travail, c'est pas nous retrouver entre quatre murs et dire qu'est-ce qu'on est bien ensemble, c'est vrai qu'on est bien ensemble. Notre travail, c'est pas seulement être là, ça rassure, quatre murs, un toit. Mais le Seigneur nous invite d'aller. C'est pas moi qui le dis, c'est Jésus. Allez. Ça veut dire, sortez de vos murs. Sortez de vos quatre murs. Allez. Et faites de tous ceux qui vous entourent, non pas des chrétiens, parce que le mot chrétien, ça veut plus dire grand chose, mais allez et faites des disciples pour Jésus. C'est écrit dans la Bible ainsi. Des disciples, des élèves, des gens qui vont vraiment s'attacher à la parole de Dieu, à la discipline de Dieu, aux exigences de Dieu, pour les vivre vraiment profondément. Si aujourd'hui, on me demandait de rétrograder sur le plan de ma foi pour m'attacher seulement à des principes dogmatiques, théologiques, froids, mornes, je dirais, je l'ai dit tout à l'heure, figés à un formalisme religieux. Mes frères et sœurs, je prends ma valise et je m'en vais. Parce que ça, c'est ce que je vivais avant. Mais depuis que ma vie est en Christ, depuis que j'ai décidé de vivre la parole de Dieu, depuis, et d'autres avec moi bien sûr, j'ai décidé de m'attacher aux principes du royaume des cieux, que j'ai décidé de me revêtir de toutes les armes de Dieu pour faire face aux ruses du diable, alors, mes frères et sœurs, ma vie chrétienne, elle a pris toute sa mesure. Je sais que je ne suis pas là le dimanche matin pour vivre un office religieux comme tant de gens le vivent, d'une manière froide. Non, il y a dans mon cœur et dans le cœur de beaucoup d'entre vous, certainement tous, eh bien un zèle, une ferveur, un élan, un cœur bouillant pour le Seigneur. Et l'évangile de paix, c'est lui qui nous apporte, eh bien, cette force, cette chaleur. C'est lui qui embrase, c'est lui qui fait toute la différence. C'est pas la parole de l'un et de l'autre sur le plan intellectuel, c'est la parole de Dieu. Et l'apôtre Paul veut encourager l'église d'Éphèse. Mais si vous étiez là dimanche dernier, si vous avez écouté le message de dimanche dernier, et si vous ne l'avez pas fait, faites-le. À un moment donné, je pars d'Éphèse, dans le sens que entre ce moment de réveil, où l'apôtre Paul invite les Éphésiens à être revêtus de toutes les armes de Dieu, et le moment où Jésus, dans le livre de l'Apocalypse, par le biais de Jean, l'apôtre, eh bien, d'écrire une lettre à l'église d'Éphèse, il s'est écoulé 40 ans. Et en 40 années, il y a une chose que le Seigneur dit à cette église, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Il n'y a rien de plus terrible que quand je prends de l'âge, ma vie spirituelle prend de l'âge. Je ne parle pas de maturité, je parle de vieillissement spirituel. Mes frères et sœurs, que votre corps vieillisse et le mien avec, c'est indéniable, c'est incontournable. Mais il y a une chose qui ne doit jamais vieillir, c'est votre zèle pour Dieu. Et il y a trop de croyants aujourd'hui dans nos églises en France dont le zèle a diminué, la ferveur a diminué, le côté bouillant pour le Seigneur a diminué, la fidélité a diminué, l'obéissance à la parole de Dieu a diminué. On ne doit pas diminuer les exigences de Dieu. On doit se laisser porter vers les exigences de Dieu. Appuyé par le Saint-Esprit, appuyé par sa parole. Mes frères et sœurs, Satan, notre adversaire, c'est lui notre adversaire. C'est pas le frère, la sœur, le pasteur. Notre adversaire, c'est Satan. Il y en a trop qui l'oublient. Votre adversaire, c'est le diable. Si vous ne me croyez pas, alors vaut mieux arracher les pages de la Bible qui en parlent. Si vous ne comprenez pas ce point de vue, vous allez au-devant de gros problèmes. Parce qu'il y a bien une chose que fait Satan. C'est de se déguiser en ange de lumière. Pour mieux tromper, il connaît parfaitement la Bible, Satan. Souvenez-vous de la tentation. Jésus, après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, que fait Satan? Il vient en disant, écoute, si tu veux, je te donne un bon beefsteak, tu as faim. Non. Il lui dit, tu peux, si tu veux, demander à ces pierres. Il va toujours dans le sens du miracle. Tu peux demander à ces pierres de se changer en pain. Mais chaque fois, Jésus va revenir sur le contexte biblique. Tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. Le Seigneur Jésus, notre Maître, nous a donné l'exemple, lui-même tout au long de son ministère, qui va durer à peu près trois ans et demi, le Seigneur tout au long de son ministère, il va vivre les exigences du Père. Il va être revêtu de toutes les armes de Dieu, être revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Mes frères et sœurs, Romains chapitre 10, verset 15, Paul dit, « Mais comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés ?» Selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux. Moi, ça me fait du bien, ça. Qui sont beaux. Les pieds de ceux qui annoncent la paix. S'il m'arrive un jour d'aller chez un podologue, je vais lui dire, vous allez vous occuper des pieds de quelqu'un qui annonce l'évangile. Elle va me dire, alors pourquoi vous venez ici si elle est chrétienne? Qui sont beaux. Les pieds de ceux qui annoncent la paix, l'évangile de paix. De ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Vous préférez les bonnes ou les mauvaises nouvelles? Il y a des gens qui sont toujours en train de courir après les mauvaises nouvelles. Ils aiment ça. C'est leur essence. Ah, je vais voir là sur YouTube, sur Google, sur... J'aime bien les mauvaises nouvelles. Vous, non. Moi non plus. Parce qu'une bonne nouvelle va réjouir le cœur de celui qui est fatigué. Elle est comme une eau fraîche, dit la Bible. Pour celui qui est fatigué, pour celui qui a soif. Le mot grec pour dire mettre les chaussures, c'est hupedeo, c'est-à-dire H-U-P-E-D-E-O, avec un accent circonflexe. Et ça veut dire, en grec, cette expression, et n'oublions pas que le Nouveau Testament est traduit du grec, ça veut dire lier, écoutez bien, lier ce qui est en bas, ce qui est soulié. Soulié. Sous-lié. Et ça a donné le mot soulié. Eh oui, tous nos mots ont une étymologie, une réalité, un contexte. Jésus a lié ce qui est en bas. Amen. La Bible dit, Paul dit aux Romains qu'à un moment donné, eh bien, il nous permettra d'écraser le diable sous nos... Amen. Je ne vais pas me gêner, hein. Mais déjà, par notre démarche spirituelle, nous pouvons le mettre en déroute. Oh, ça ne doit pas lui faire plaisir que je vous parle ainsi, mais ce n'est pas la première fois en 26 ans de ministère pastoral. Mes frères et sœurs, nous devons, eh bien, réaliser que Jésus a déjà lié ce qui est en bas. À savoir Satan et sa puissance. Ça va? Certains veulent combattre, écoutez bien. Ils veulent combattre l'incrédulité. Ils veulent combattre les idéologies humaines, pernicieuses. Comment? Par des moyens autres que ceux proposés par la parole de Dieu. Et ils n'y arrivent pas. En utilisant les armes des hommes, je l'ai dit, je le répète, en utilisant les armes, allez, certains le font hein, dans le monde, les armes de l'ennemi, c'est-à-dire discussion, raisonnement, contradiction, dispute de mots, etc. La liste n'est pas du tout exhaustive. Il en résulte souvent des défaites, des échecs, des hontes, des querelles, des disputes, des cassures, des divisions, et ça, c'est parce qu'ils combattent non pas avec des armes spirituelles, mais avec des armes charnelles. Et le gros problème, c'est que ce problème-là, si je puis m'exprimer ainsi, c'est que ça peut toucher qui que ce soit ici, vous et moi. Et c'est la raison pour laquelle que la parole de Dieu, Paul, nous invite à retenir cela, parce que, en définitive, qu'est-ce qui nous reste, mes frères et sœurs? Certes, les armes spirituelles, mais elles sont nourries par quoi? Dont ce zèle, qui est une arme. Il nous reste que la foi. Alors, quand je dis « il nous reste que la foi », pardonnez du peu, mais c'est pas péjoratif quand je dis ça, que la foi. C'est-à-dire, il nous reste, allez, je vais pas dire que, il nous reste la foi. Et la foi, elle vient de quoi? Alors, pour ceux qui écouteront le message sur le site, vous avez répondu, elle vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, de l'Évangile. Bonne nouvelle de Jésus-Christ. Le seul zèle, puisque c'est là notre arme troisième que nous devons être revêtus, le seul zèle, les seules bonnes dispositions dont nous puissions nous prévaloir et qui pourraient chausser nos pieds spirituellement, donc ne peuvent être que les vertus du Seigneur qui nous sont accordées en don et rappelées par le moyen de l'Évangile. Et je vais prendre un exemple ce matin pour appuyer cette idée-là. C'est l'exemple qui se trouve dans le livre des Juges, chapitre 6, chapitre 7. Alors ne vous inquiétez pas, je ne vais pas voir tous les détails, sinon il faudrait y passer. Non, mais je vais résumer un peu tout cela pour essayer à bien comprendre, si vous me le permettez. Tout d'abord, je dirais que ce n'est pas l'outil qui compte, mais la main qui le manie. Qui c'est qui manie ma vie? Qui c'est qui conduit ma vie? Chacun répond pour lui-même. Enfin, j'entends déjà les réponses. Je suis un instrument entre les mains de qui? Suis-je? Il y a trois possibilités. Soit je suis un instrument entre les mains de Dieu, c'est ce qu'il faut, ou soit je suis un instrument entre ma propre chair ou entre les mains du diable. De toute façon, les deux sont liés. Les deux derniers. Ce n'est pas l'outil qui compte, mais c'est la main qui va manier l'outil. Et il y a ici des manuels au niveau emploi, de très beaux emplois, maçons, ébénistes, etc. Moi, j'appelle ça des métiers, c'est des métiers nobles. Et c'est formidable, eh bien, de voir ce qui sort du travail de leurs mains. Ils prennent une truelle, ils prennent un ciseau, enfin bref, ils ont des tas d'instruments et il va en résulter une maison formidable, il va en résulter une table de salon extraordinaire, il va ressortir, eh bien même un mécano, il va faire d'une deux chevaux une Ferrari, donc c'est merveilleux. Entre eux, ils ont des mains, vous savez, on dit toujours, ils ont des mains en... Eh oui. Un pâtissier. Le meilleur pâtissier. Le meilleur boulanger. Le meilleur. D'accord? Et voyez-vous, mes frères et sœurs, c'est pas l'instrument. L'instrument, lui, il existe. Mais comment on le manie? Comment il est manié? Comment il est utilisé? Il faut qu'il soit utilisé par quelqu'un qui sait l'utiliser. Et celui qui sait parfaitement utiliser notre vie parce que nous lui appartenons, c'est bien Jésus. Je ne suis pas créé par le diable, j'ai été créé par Dieu. Il m'a créé pour que je lui appartienne et pour que je sois utilisé par lui. Et quand je suis utilisé par lui, alors il va y avoir ainsi cette troisième arme, le zèle, qui va être nourrie par l'évangile de paix, l'évangile de Jésus, par la personne de Jésus. Et là, je vais être un instrument de quoi? De bénédiction. Un instrument de salut pour les âmes. Un instrument d'encouragement, un instrument de paix, un instrument de vie, un instrument d'espérance, un instrument de joie. Dieu se glorifie, mes frères et sœurs, dans de faibles instruments. Vous vous sentez faible? Eh bien, justement, c'est là que Dieu va se glorifier. Ceux qui sont conscients de leur infirmité personnelle, spirituelle, c'est là que Dieu va se glorifier. C'est pas quand on dit, oh ben, sans moi, rien ne tourne, sans moi, l'église, elle capote, sans moi, l'église aussi. Non, on n'est pas indispensable. Sans moi, l'œuvre de Dieu continue. 1 Corinthiens 27, 29, vous le lirez. Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes, etc., etc. Afin que, pour réduire à néant celles qui sont. Afin que quoi? Que nulle chair, c'est-à-dire nul homme sur la terre, ne se glorifient devant Dieu et disent « c'est grâce à moi ». Ça, c'est de l'orgueil, c'est pas de l'humilité. Non, c'est grâce à Dieu. C'est grâce à Jésus qui vit en moi. C'est grâce au Saint-Esprit qui est là. Personnellement, mes frères et sœurs, vous le voyez pas à chaque fois, mais je l'ai déjà dit, c'est une vérité, mes collègues le disent aussi pour eux-mêmes. Chaque fois que je prends la parole, je tremble. Parce que j'ai une grande responsabilité, c'est de partager avec vous la parole de Dieu, mais dans la vérité. Mes frères et sœurs, je me sens faible, mais c'est là que Dieu me donne d'être fort. Je me sens presque parfois inutile, mais c'est là que Dieu dit, mais tant mieux, c'est bien, parce que sans lui, on ne peut rien faire. L'histoire de Gédéon, justement, juge 6, juge 7, l'histoire de Gédéon fournit une illustration frappante d'un homme qui a été revêtu de la vérité, revêtu de la justice, revêtu donc du zèle. Et quand on regarde le chapitre 6, déjà, eh bien, nous nous rendons compte qu'Israël, le peuple d'Israël, qu'est-ce qu'il a fait? Il a abandonné son rédempteur et il s'est mis à nouveau à servir les idoles. Alors l'Éternel va lui laisser faire l'expérience des conséquences de son infidélité. Il va le livrer à Madian. Il va livrer le peuple entre les mains de Madian combien de temps? 6 mois? 1 an? 7 ans. 7 ans, c'est long. Hein. Pour nous, sur la terre, c'est long. 7 ans. Le mot Madian, ou ce nom, veut dire dispute. Madian. Et la signification de ce nom, Madian, qui veut dire donc dispute, va suggérer une atmosphère d'oppression, de querelle, de lutte. Et en tout état de cause, d'absence de paix, ça va de soi. Ce n'est pas la vie spirituelle normale, bien sûr, qu'il y ait de telles choses. Même parmi Israël, mais même parmi nous, notre vie, parmi l'Église, parmi chacun d'entre nous. Surtout quand on remonte au verset précédent, chapitre 5, verset 31, il est écrit « Le pays fut en repos, le pays fut en paix pendant 40 ans. » Alléluia. Madian va tenir Israël sous son pouvoir. Ça symbolise l'adversaire. Hein. Pour nous, comme j'en parlais tout à l'heure, par rapport au combat spirituel. Il va tenir Israël sous son pouvoir. Il va tenir Madian, ce peuple va tenir Israël sous son autorité. Spirituelle, sociale, politique. Chapitre 6, verset 1er, vous pouvez le lire. Vous pouvez suivre à chaque fois pendant que je développe. Il va tenir. La main de Madian fut puissante contre Israël. Et de ce fait, Israël connaît quoi? Et si vous lisez chapitre 6 et les versets 1er, verset 5, etc., vous allez vous rendre compte que Israël connaît la défaite, connaît le repli, connaît le recul, connaît la famine, connaît le malheur. Toutes ses productions sont détruites. Et selon la traduction à la Colombe, chapitre 6, verset 6, Israël est très appauvri. Dites-moi, ça fait beaucoup. Mes frères et sœurs, il peut arriver à un chrétien de connaître des périodes de recul spirituel ou de déclin. De Pierre, chapitre 2, verset 20, Pierre dira ceci, « En effet, si après s'être retiré des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, et s'il s'y engage de nouveau, le chrétien, donc, ou les chrétiens sont vaincus. Leur dernière condition est pire que la première. » Mes frères et sœurs, précisons que la vie chrétienne envisagée sous cet angle, comme Pierre le dit ici, bien sûr, où on a pris l'exemple de Madian, on fait un rapprochement, et la vie chrétienne envisagée sous cet angle n'est pas la vie chrétienne normale, on est d'accord. Cette situation n'est pas conforme à la volonté de Dieu, on est d'accord également. Et elle a besoin d'être expliquée quant à ses causes, bien sûr. Mais elle ne va pas dans le sens de cette arme justement spirituelle qu'est le zèle que donne l'évangile de paix. Quelqu'un qui est dans la situation que je viens de décrire parce qu'il recule, parce qu'il s'écarte, parce qu'il s'éloigne, comme Israël s'est écarté, s'est éloigné, a désobéi à Dieu. Donc pendant 7 ans, ils vont être sous la main puissante de Madian. Mes frères et sœurs, alors on n'est plus capable de vivre du zèle. On n'est plus capable de comprendre la réalité de la justice de Dieu. On n'est plus capable de comprendre eh bien la réalité de la vérité ou de s'y attacher. Mais je bénis Dieu parce qu'il y aura toujours, au milieu d'une période de déclin, il y aura toujours au milieu d'une période difficile dans une église, dans un groupe de personnes, dans une famille, il y aura toujours quelqu'un qui sera là, prêt à dire « Seigneur, me voici ». Et c'est la raison pour laquelle moi je ne désespère jamais dans toutes les églises où je sers le Seigneur, même ici, parce que je sais qu'il y a 1, 2, 5, 10, peut-être même plus de personnes qui disent au Seigneur « Me voici ». Et ça va donner envie aux autres de dire aussi, me voici. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Il faut avoir une réaction salutaire, une réaction nécessaire spirituelle. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils vont crier, chapitre 6, verset 6, ils vont crier à Dieu. Et mes frères et sœurs, ça sert à rien de crier contre je ne sais qui, je ne sais quoi. Quand on est en difficulté, il faut crier à qui? À Dieu. Et donc Israël va exprimer un grand désespoir, un grand besoin, une souffrance certaine et une profonde détresse. Je dirais qu'une telle forme de prière, mes bien-aimés, démontre une réelle volonté de voir un changement de situation s'accomplir. Et Dieu va toujours attendre pour intervenir, ça lui arrive d'attendre. Nous, on voudrait qu'il agisse maintenant, aujourd'hui. On voudrait que Dieu nous évite de voir des voitures cramées derrière l'église. On voudrait que Dieu nous évite de voir une église brûlée. On voudrait que Dieu nous évite, de voir, une église pillée, etc. Mais pardonnez-moi du peu, ce qu'on vit en France, c'est rien comparé à ce que d'autres frères et sœurs vivent dans le monde entier à cause de leur foi. Moi, quand je vois une voiture cramée derrière l'église, l'église n'a pas été touchée, mais je me dis, je me raisonne, je dis Laurent, mais c'est rien. Alors qu'en ce moment, moi je suis là, en train de prêcher librement l'évangile, je suis avec vous dans la communion fraternelle, pendant ce temps, il y en a qui sont en train d'être torturés à cause de leur foi. Je minimise ma situation parce que certaines situations sont beaucoup plus compliquées. Mes frères et sœurs, ce dont on a besoin, c'est de dire, oui Seigneur, quand on va crier, je sais que tu vas intervenir. Lorsque les enfants d'Israël crièrent, ils crièrent à l'Éternel. Alors dans leur détresse, ils vont crier à l'Éternel. Je le répète, tous nos efforts, toute notre agitation face à des moments difficiles seront inutiles. On aura beau essayer à faire en sorte qu'on me comprenne ou qu'on me comprenne pas, vous n'y arriverez pas. La seule chose que vous avez à faire, c'est de vous humilier sous la puissante main de Dieu et de dire « Seigneur, prends ma vie, ce que je suis est à toi. Ce que l'on dit de moi, ce qu'on pense de moi, c'est pas un problème, c'est ce que toi tu penses de moi. » Et ce que je veux, c'est qu'on voit mon zèle, on voit la justice réellement dans ma vie, on voit la vérité briller, on puisse voir toutes ses armes. Et l'adversaire, quand il voit ça, qu'est-ce qu'il fait? Il fuit. Par contre, quand il ne le voit pas, il rentre, il insiste. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de combat spirituel, même si on est armé des armes spirituelles, mais on peut mieux faire face. Nous ne devons pas nous efforcer, c'est inutile. Nous devons tous apprendre cette grande leçon sans le secours de Dieu. Il n'y a point de délivrance. Voilà, c'est tout simple. Je pourrais presque arrêter mon message maintenant. Sans le secours de Dieu, il n'y a point de délivrance. C'est pas par vos agitations, vos cris, vos... je ne sais quoi. Non, c'est dans la paix de Dieu. Réclamant le secours à Dieu. Je crie à l'Éternel. Et cette manière de s'exprimer montre que Dieu attend cette sorte d'appel au secours. Le faites-vous? Il y a des gens qui disent, oh mais Dieu m'aime pas, Dieu n'agit pas. Mais je leur dis, mais est-ce que vous avez crié à lui? Oui, mais comment? Avec quel état d'esprit? Quel est votre cœur? Quel est votre sentiment intérieur? Le Seigneur aime et il ne dédaigne pas un cœur qui est contrit et brisé. Alléluia. Il aime ça. Et quand je viens vers lui, comme nous allons continuer à le vivre dans quelques instants, en prenant la Sainte-Seine, en adorant, en louant le Seigneur, en priant pour un frère, je ne l'ai pas oublié, il a demandé l'onction d'huile pour lui parce qu'il est malade. Le Seigneur va faire éclater sa gloire parce qu'on le vit avec humilité, tranquillement, dans la paix. La réponse divine, elle est toujours spirituelle. La réponse divine et la victoire, elle est toujours spirituelle. Et quand il est dit que Dieu a envoyé un prophète, c'est pas Gédéon. Hein. C'est pas question de le prophète, c'est pas Gédéon ici. Dieu a envoyé un homme qui était un prophète. La Bible ne nous dit pas qui, elle ne donne pas le nom. Mais il a envoyé un prophète et ça représente quoi? Ou qui? L'intervention de ce prophète. Pour nous, dans la Nouvelle Alliance, ça représente l'intervention de la voix du Saint-Esprit qui s'adresse à l'Église. Et qui dit à l'Église. Je vous ai fait monter. Je vous ai fait sortir. Je vous ai délivré. Je les ai chassés. Et je vous ai donné Amen. Je vous ai fait monter. Je vous ai fait sortir. Vous savez ce qu'il faut mettre derrière, hein ? Je vous ai délivré. Je les ai chassés. Je parle de l'adversaire et des œuvres des ténèbres. Et je vous ai donné. La voix du prophète, c'est pour nous la voix dans l'intervention du Saint-Esprit. Et ces victoires antérieures, que je viens de souligner ici, monter, sortir, etc., ont été accordées par Moïse, mais aussi par Josué. Elles annoncent celles qui ont été donc octroyées en Jésus-Christ à nous, l'Église. Par le moyen de quoi ? Par le moyen de la croix. Tout a été accompli. Pour que les chrétiens soient vainqueurs, pour que vous soyez des vainqueurs et non pas des vaincus. Je vous dis ce matin, mes frères et sœurs, vous êtes des vainqueurs. Je le répète parce que je voudrais que ça soit bien ancré, ça. Vous êtes des vainqueurs. Vous êtes des vainqueurs. C'est pas parce que je vais me le dire, ça c'est pas la bonne manière, hein, la méthode Coué, non. Je suis vainqueur, ça va aller. Non, c'est parce que Jésus a remporté la victoire. Donc je suis même, dit la Bible, plus que vainqueur, par celui qui nous a aimés, Jésus. Ça veut dire que je suis vainqueur d'avance, c'est ça, plus que vainqueur. C'est-à-dire que j'ai toujours une longueur d'avance quand j'ai cette position, dans cette position où je suis armé spirituellement, selon ce qu'on voit ce matin, j'ai toujours une longueur d'avance sur le diable. Attention que ce ne soit pas lui qui ait une longueur d'avance. En Christ, Dieu nous a fait monter, donc je traduis, jusqu'au lieu céleste. Je suis assis avec Christ. C'est écrit, hein ? Où ça ? Par la foi, bien sûr. Dans les lieux célestes. Il y a même un chant qui a été tiré de ce passage. Et je regarde en bas, quoi ? L'ennemi vaincu par la croix. Où êtes-vous assis ? En bas ou en haut ? Il nous a délivrés du pouvoir de nos péchés. Le péché a un pouvoir. Le péché a un salaire, c'est la mort. Mais il nous a donné le don gratuit, merveilleux, Jésus, pour nous donner la vie. Il a chassé la puissance de l'ennemi dont Jésus a triomphé. Tout est transposable entre les paroles adressées ici à Israël, à la condition présente de l'Église aujourd'hui, acquise par le moyen de la foi en Christ. Je vais poser une autre question. Quelle est ma position ? Suis-je dans l'obéissance ou la désobéissance à Dieu ou à sa parole ? La situation de Gédéon, je ne pourrais pas tout développer. Mais je continuerai la prochaine fois. La situation de Gédéon ressemble à celle de tout le peuple. Je parle d'Israël. Il travaille en se cachant de Madian. Vous avez lu ? Je vous invite à lire pendant que je prêche. Il est rempli de questions, Gédéon. Sa foi est soumise à une rude épreuve. Et ce qu'il vit n'est pas conforme à ce dont il a entendu parler, comme on vient de le souligner. Sa foi, elle passe par un moment de crise sérieuse. Mais qu'est-ce qui se passe ? Il y a un ange qui est là. Il va y avoir un prophète, mais il y a un ange qui est là à ce moment-là. Il est sous le térébinthe, nous dit la Bible, qui est à Ophra. Et en silence, l'ange qui est sous le térébinthe à Ophra, qu'est-ce qu'il fait ? Il est là, quelques mètres de Gédéon. Gédéon s'en est même pas rendu compte, hein. Ou bien s'il s'en est rendu compte, on sait que les anges peuvent prendre une forme humaine selon la volonté de Dieu pour venir au secours de ses enfants et de son église. Et là, donc cet ange, qui a certainement une forme humaine, donc il regarde Gédéon. Il le laisse. Il le regarde faire. Mes frères et sœurs, le Seigneur vous regarde. L'Esprit de Dieu vous voit. Et j'aime cette expression biblique qu'on retrouve à plusieurs reprises dans la parole de Dieu. Il nous connaît. Il connaît toutes choses. Ce petit mot, il connaît, il sait, il connaît qui vous êtes, ce qu'il y a dans votre cœur, ce que vous dites, ce que vous avez dit, ce que vous voulez faire. Il connaît tout le Seigneur de vous. À côté, les RG, zéro. Est-ce que c'est les RG ? On ne les appelle plus comme ça, hein ? C'est les renseignements généraux. Lui, c'est tout. Tout. tu connais, dit le psaume 139, tu connais mon sentier, tu es au fait de toutes mes voies, etc., etc., dit David. Le Seigneur prend connaissance de tout. Que peut-il lire, donc je le répète, dans nos pensées? Que peut-il discerner dans mes voies, dans ma marche? Quelle est mon appréciation de Christ et de sa parole? Avons-nous l'habitude de nous retirer à l'écart pour nous nourrir de lui, un cœur à cœur avec lui, pour nous laisser encore renouveler spirituellement, comme ce matin dans le cadre de ce culte d'adoration et de louange? Je vais arrêter là. Je continuerai la prochaine fois. Toujours sur cette arme spirituelle, le zèle. Parce que je vais parler de la rencontre personnelle de Gédéon avec le Seigneur. Ce que le Seigneur va lui dire pour qu'il redevienne zélé, non pas d'une manière cachée, vous le verrez plus tard, dimanche prochain, non pas dimanche prochain, mais dans 15 jours, vous le verrez. Et vous l'avez lu, vous le savez, qu'est-ce qu'il fait? Il va dans un pressoir, qu'est-ce qu'il fait? Il va battre du froment. Ah, excusez, je ne suis pas très fort dans la matière, mais on ne bat pas du froment dans un pressoir. Pour moi, un pressoir, c'est soit de l'huile, soit du vin. On est d'accord là-dessus? Voilà, je ne suis pas très fort dans la matière, mais enfin, j'ai compris cela. Mais il bat du... Pourquoi? On le verra plus tard, mais je cite ça comme ça, vous allez y réfléchir. Parce qu'en définitive, il veut tromper Madian. Premier point. La deuxième raison, c'est que peut-être aussi, il veut tromper Madian sans trop se faire voir, parce qu'il a peur de Madian. Et il bat du froment dans un pressoir, parce que il veut tromper Madian, il a peur de Madian, mais en définitive, le zèle qu'il est en train de vivre, malgré tout, pour battre du froment, n'est pas celui que Dieu lui demande d'avoir. Le Seigneur veut que nous soyons à notre place, il veut que nous soyons au pressoir, mais pour presser, il veut que nous soyons là où on peut, sur l'air, pour battre du froment, là, oui, mais pas dans l'un ou dans l'autre. Suis-je à ma place? Est-ce que je sers Dieu de la bonne manière? Suis-je revêtu de toutes ces armes spirituelles pour justement m'opposer à celui qui voudrait me faire croire que j'en ai pas besoin, que je peux battre du froment dans un pressoir? C'est pas grave, continue comme ça. Non. Le Seigneur a mis chaque chose à sa place. Regardez le ciel, regardez la terre, tout ce qu'il a créé. La lune est bien placée, le soleil aussi, heureusement. Il a créé la terre avec un moyen de protéger la terre, un bouclier. Sinon, on serait bombardé continuellement, par ce qui arrive du cosmos. Bref, il nous protège. Tout est à sa place, dans les moindres détails. Notre corps, regardez votre corps. Parfois, il peut partir un petit peu dans tous les sens, surtout le mien. Mais malgré tout, tout est à sa place. Les intestins sont au bon endroit, l'estomac aussi. Vous imaginez l'estomac derrière les oreilles? Vous imaginez les oreilles ici et la bouche là? Les yeux, il y en a deux, il n'y en a pas qu'un, je ne suis pas un cyclope, Tout est parfaitement bien mis en place. Il y en a qui pensent que c'est l'évolution. Ils ont vraiment la foi. Pour une telle perfection, tout est précis. Et nous allons voir que Gédéon, et vous le verrez, vous pouvez déjà le lire à la maison, vous allez regarder et vous allez vous rendre compte qu'à un moment donné, Gédéon va retrouver du zèle. Et il va retrouver cette arme spirituelle, il va retrouver un élan, il va retrouver du courage, il va retrouver de la force, parce que le Seigneur lui dit: Gédéon, tu es un homme vaillant. Ah bon? Ah, je ne savais pas ça. Et oui, tu ne le savais pas parce que tu te cachais. Tu ne le savais pas parce que tu as eu peur. Tu ne le savais pas parce que tu as mis de côté tout ce qui est spirituel. Et là maintenant, tu le sais, je suis avec toi et là tu vas faire de grandes choses. Ce n'est pas seulement 6, c'est aussi le chapitre 7, c'est aussi le chapitre 8. Et nous nous rendons compte que cet homme va être un homme remarquable. Alléluia. Vous voulez être des hommes et des femmes remarquables? Qui veut? Remarquable, c'est-à-dire qu'on remarque, dans le bon sens, pas dans le mauvais sens, parce qu'il y en a qu'on remarque dans le mauvais sens. Mais remarquable selon Dieu. Être remarquable. Je t'ai remarqué. Mais c'est surtout le Seigneur qui nous remarque. Ça a été un message encore d'encouragement, c'est pas pour vous écraser, c'est pour vous encourager, mes frères et sœurs. Et vous dire, mais là, c'est vrai. Je veux être revêtu de cette arme qu'est le zèle. La justice, bien sûr, la vérité. On verra les autres plus tard. Le zèle. Alléluia. Seigneur, nous allons poursuivre ce culte. Nous allons partager la Sainte Cène. Nous allons apporter notre offrande avec générosité parce que c'est un moyen aussi de te louer. Nous allons encore élever nos cœurs, mes frères, mes sœurs, des plus jeunes jusqu'aux plus âgés. Je prie pour que ce que j'ai pu apporter ce matin dans cette première partie concernant cette arme spirituelle qu'est le zèle que procure, que apporte l'évangile de paix, nous devons être chaussés de cela pour être toujours dans ce mouvement de force, de joie, d'espérance, de victoire. Seigneur, viens nous aider. De toute façon, sans toi, on ne peut rien faire, Jésus. Sans le Saint-Esprit, ce n'est pas possible, Seigneur. Nous avons besoin de toi. De toute façon, toutes ces armes, elles nous ramènent à toi. Toutes ces armes, elles nous ramènent à la croix. Elles nous ramènent au Saint-Esprit. Elles nous ramènent à nous réfugier à l'ombre de tes ailes. Toi qui es le Tout-Puissant. Bénis mes frères et sœurs. Pendant cette période de estivale 2018, que chacun puisse se fortifier. Chacun puisse avancer, chacun puisse réaliser certaines choses qu'ils ont besoin de réaliser. Donne-leur de voir comme tu vois et fais éclater ta gloire. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu.